Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission sur le cinéma. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure et nous allons parler de 5 films et nous allons pouvoir jouer un blind test. Nous allons alors fêter, alors pas tout à fait en fanfare parce que nous n'avons pas encore vu le film Avatar de James Cameron, mais nous allons faire donc un blind test autour de la filmographie plutôt courte hein, du réalisateur canadien. Toi, tu as vu 2 films, Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je vais vous parler donc de Pinocchio, le dernier film de Guillermo del Toro, un autre poids lourd hein, qui sort un film donc cette semaine, et puis le nouveau film Ernest et Célestine, un film d'animation français.
Moi, je vous parlerai de La fièvre méditerranéenne, film de Maha Haj. Et puis Marine nous parlera de Corsage, mais elle va commencer avec Despedida. La nuit, par la fenêtre de la maison familiale, Anna, 11 ans, voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Oui, c'est un film fantastique. On commence par ça.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Les sorcières n'aiment pas quand on parle d'elles. Elles reviennent la nuit et elles entrent dans ta chambre.
La grand-mère de Anna vient de mourir et sa sœur, une méchante vieille femme, semble plutôt s'en réjouir. Anna, petite fille de 11 ans, vit son deuil avec sa maman dans leur maison à la lisière de la forêt et une nuit, par la fenêtre, elle croit voir le fantôme de sa grand-mère. Pour aller à sa rencontre, il va lui falloir oser entrer dans la forêt et elle va découvrir un monde mystérieux entre rêve et réalité, peuplé de sorcières, de créatures étranges et d'un chien sauvage doué de paroles qui s'avère être le cerbère de ce monde parallèle.
Une intruse.
Je cherche ma grand-mère.
Tu n'appartiens pas à ce monde. Va-t'en.
Ils sont le pont pour passer de l'autre côté.
Je dois trouver ma grand-mère. Tu la connais?
Je pensais que c'était une sorte de magie.
J'ai traversé le monde des morts pour te retrouver, donc tu viens avec moi!
Despedida est le deuxième film du duo de cinéastes brésiliens composé de Luciana Mazzetto et de Vinicius Lopez après Irma, premier film interprété par la même jeune comédienne que l'on retrouve ici dans Despedida, Anaïs Grala-Wegner. Il s'agit d'un film pour enfants, hein, bien que tout à fait appréciable par les adultes également. Plus précisément, un film fantastique pour enfants, c'est-à-dire que le surnaturel va s'introduire, s'immiscer dans le quotidien banal d'un jeune personnage. Despedida est un film qui réussit à établir un dosage subtil et inventif entre personnages effrayants, mais pas trop, et mignonnerie appropriée. On sent que les inspirations du film vont chercher du côté des films fantastiques pour enfants des années 80, 90, tels que Jumanji ou encore L'Histoire sans fin. Grand classique dans lequel un jeune garçon harcelé par d'autres enfants de son âge découvrait un monde merveilleux dont il allait devenir le héros. Parmi les influences de Despedida, on retrouve également les films de Miyazaki pour le rapport à la nature. Les auteurs du film se réclament aussi des films tchèques de la nouvelle vague, tels que Valérie au Pays des Merveilles ou encore des contes brésiliens et du folklore des carnavals de rue. Le principal intérêt du film, ce sont ses choix formels audacieux, puisqu'il mélange scènes filmées en prise de vue réelle ou live action, comme on dit, animation de marionnettes en stop motion et animation. Visuellement foisonnant, à la fois expérimental et très abouti, le film laisse une grande place à l'imaginaire tout en abordant un sujet plus sombre, plus réaliste, celui du deuil. Despedida signifie adieu en portugais. Le métrage propose derrière sa fantaisie assumée une réflexion sur l'acceptation de la mort, faisant du film un support idéal pour aborder ce sujet avec un jeune public.
Despedida est en salle depuis le 14 décembre. Pinocchio, c'est toujours la même histoire, hein, mais ils sont plusieurs réalisateurs à la revisiter régulièrement. Et c'est au tour de Guillermo del Toro de le faire pour Netflix. Et puis c'est toi qui t'y es collé, Guillaume.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais en fait non.
S'il est sûr que l'on retiendra James Cameron comme homme de l'année, bah avec son monumental Avatar 2, hein, amené à exploser, hein, tous les records, mais aussi l'industrie, bah, jusque dans ses fondements, bah, y a un autre personnage illustre de nos univers cinématographiques préférés, bah, qui a su être diablement méritant et qui, bah, mériterait, sinon la mention honorable, bah, carrément la première place devant le roi du monde. Bah, je parle bien sûr de l'omniprésent, le multitâche, le boulimique de projet et l'ultra surdoué Guillermo del Toro. Alors souvenez-vous, hein, même si le film a fait un bide, bah, il avait ouvert 2022, dès janvier, avec son excellent Nightmare Alley, remake du Charlatan, et aussi Nightmare Alley en VO, donc un classique des années 40 qu'il a su se réapproprier d'une troublante manière par rapport à ses thématiques et sa filmographie. Ensuite, on l'a retrouvé bien évidemment à la période d'Halloween, mais cette fois-ci en format série et sur Netflix. Alors il y chaperonnait la bien nommée anthologie horrifique Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro, des petits films d'horreur d'une heure rendant autant hommage aux anthologies comme Historias para no dormir de Narciso Ibanez Serrador, ou La Quatrième Dimension de Rod Serling, bah, deux de ses nombreux mentors, hein, à ce réalisateur mexicain. Son ultime manifestation, bah, clôture l'année, et d'une bien belle façon. Car cette semaine, il n'est pas question d'un film live ou d'un format court, mais bien d'un film en stop-motion, hein, adapté de la célébrissime œuvre de Carlo Collodi, Pinocchio, qu'il co-réalise avec Marc Gustafsson, un spécialiste de cette technique. De plus, hein, Guillermo del Toro, bah, fête de fin d'année et film d'animation, et ce, quel que soit le style d'animation, bah, c'est une ritournelle, hein, qui commence à s'imprégner durablement dans nos esprits, puisqu'il faut rappeler que le monsieur avait déjà consacré un film, non pas qu'à une fête, mais à toutes les fêtes importantes du calendrier judéo-chrétien, en produisant le sympathique Les 5 légendes en 2012. Donc il ne nous reste plus qu'à lancer le programme de la plateforme, capable du meilleur comme du pire.
Papa ! Cette chose parle !
C'est rien qu'un pantin de bois.
C'est pas vrai. Je suis un vrai petit garçon.
Parfois, les gens ont un peu peur des choses qu'ils ne connaissent pas.
J'ai du mal à comprendre.
Ah, nous l'avons trouvé. C'est notre étoile.
Tout le monde va t'aduler et scander ton nom, Pinocchio.
Pinocchio!
Mais celui qui est bien capable du meilleur, eh bien, c'est ce cher Guillermo. Hein, pourtant, il partait de loin. Hein. Rappelons que Pinocchio est un conte, hein, qui a connu un nombre conséquent d'adaptations. Et si elles sont toutes assez différentes, ben, elles durent toutes se frotter d'une manière ou d'une autre au dessin animé de Walt Disney, qui s'est, depuis sa sortie en 1940, ben, durablement implanté dans l'inconscient collectif, au point de parfois faire oublier le texte de Collodi. Alors j'ai quand même envie de me faire un peu l'avocat du diable, hein, pour le coup, car il faut bien reconnaître que ce Pinocchio-là, bah, c'est une merveille absolue, hein, et probablement le plus beau film d'animation traditionnel et plus beau film tout court de Disney. Le même Disney, hein, qui a remis le couvert il n'y a pas plus tard qu'en septembre avec la catastrophique adaptation signée Robert Zemeckis, dernier exemple d'artiste majeur complètement broyé par la grille d'algorithmes qui est devenue la firme aux grandes oreilles au fil du temps. Alors si l'affront, hein, fait à Zemeckis persiste, celui fait à Collodi s'atténue un peu devant la version del Toro, qui ne sera pas beaucoup plus fidèle, hein, mais qui a su littéralement dire quelque chose à travers un conte devenu mythique. Alors il ne faudra pas attendre bien longtemps, hein, avant de comprendre en quoi ce Pinocchio est justement tributaire de del Toro. Ses habitués repéreront tout de suite, hein, la nouvelle analogie qu'il fait entre récits initiatiques, comme dans L'Échine du Diable ou Le Labyrinthe de Pan, avec la montée d'un fascisme lénifiant, destructeur de culture comme de monde. Une fois de plus, hein, la réponse à l'absurdité de la guerre et des comportements de certains hommes se retrouve contrebalancée par le monde de l'étrange, de l'occulte et de la magie, avec toute une ribambelle créature symbolique au design déjà entreaperçu dans Labyrinthe de Pan, donc, ou le bestiaire fantastique de Hellboy 2. Pinocchio redevient enfin un récit où l'on questionne notre humanité, notre rapport à la vie et à notre finition, et ose pour cela aborder, bah, de plein fouet tout ce que le monde de l'animation mainstream a mis depuis belle lurette au placard, de peur d'effrayer les enfants et de contredire les croyances des parents, bah, à savoir la religion et la mort. Qu'on se le dise, vous allez ici être malmené, et entre les pleurs de rire et ceux de larmes, bah, rarement Netflix n'aura mis la main à la poche de façon aussi concluante. Comme quoi, tout arrive.
Alors il y a une petite chose que je voudrais te donner. C'est un manuel. Il appartenait à un petit garçon très cher à mon cœur.
Le fils que tu as perdu ? Papa !
Ça suffit, ces absurdités ! Mais
Qu'est-ce que tu fabriques?
Dis-lui que je l'aime très fort. Et que je ne serai plus jamais un fardeau. Il y a quelqu'un?
Concluons par un commentaire mis en ligne par Joe Dante, le papa d'Hurlement, Gremlins 1 et 2, les banlieusards, Panic sur Florida Beach, Small Soldiers et les Looney Tunes contre-attaque. Donc il a affirmé sur les réseaux sociaux que, de son point de vue, le Pinocchio de Del Toro était rien de moins que le plus beau film en stop-motion jamais réalisé depuis le King Kong de Marianne C. Cooper et Ernest B. Chochack en 1933.
Et pour voir ce Pinocchio de Guillermo Del Toro, il vous faudra des codes Netflix. Sissi a 40 ans et doit rester belle et a de plus en plus envie de se rebeller, et c'est Vicky Krieps qui l'incarne dans Corsage.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Nous sommes en 1877. Élisabeth d'Autriche, que l'on ne nommera jamais Sissi au cours du film, est une impératrice appliquée qui parle trois langues, fait du sport toute la journée, est aussi belle qu'érudite. Nous sommes 10 ans avant que ce personnage historique, popularisé par Romy Schneider avec la série de films Sissi impératrice, ne soit assassiné. Évidemment, l'affiche du film de Marie Kreutzer montrant Sissi nous faire un magistral doigt d'honneur est un pur anachronisme et dont un fait historique. Et d'ailleurs, cette scène n'apparaît pas dans le film, hein, mais cela donne le ton. Si le film se veut assez classique dans sa forme et soutenu par une réelle documentation, il sera question de la face cachée de Sissi, de son insolence et de sa rébellion contre les conventions. Si le film s'appelle « Corsage », c'est qu'il est question, au centre du film, des contraintes qui pèsent sur le corps des femmes à l'image publique, déjà à cette époque, des femmes publiques comme elles, dont on ne disait pas encore alors qu'elles étaient médiatisées. Elisabeth se fait mesurer le tour de taille régulièrement, elle se fait peser par ses domestiques, son corps est sanglé dans un corset qui l'étouffe, et lorsqu'elle participe à des dîners mondains, c'est sans jamais toucher à son assiette. On lui demande de ne pas manger, mais en revanche, à la fin de liberté et trouve un simulacre de passion auprès d'hommes avec qui elle flirte, avec l'assentiment plus ou moins officiel de son empereur de mari. Elle feint l'évanouissement lors des représentations officielles afin qu'on lui laisse la paix et part à cheval dès qu'elle en a l'occasion au point de mettre en danger sa santé, pourtant surveillée avec acharnement par les médecins de la cour et par ses dames de compagnie.
Festa, avec gesagt. Festa.
Elisabeth va même pousser la curiosité jusqu'à rencontrer un jeune homme qui a créé une curieuse invention qui permettrait d'enregistrer, figurez-vous, des images en mouvement. Sissi va se laisser filmer de bonne grâce et remarquer avec pertinence et impertinence, le cinéma étant bien évidemment muet à l'époque, qu'elle peut, je cite, « dire tout ce qu'elle veut tant qu'elle sourit », métaphore assez cruelle de ce que l'étiquette attend d'elle. Le cœur battant du film, c'est bien évidemment Vicky Krieps, qui joue ici en allemand, en anglais et en français. La comédienne que l'on voit de plus en plus, y compris dans le cinéma français, hein, récemment chez Amalric et bientôt dans Les Trois Mousquetaires, n'a décidément pas son pareil pour interpréter les femmes à la fois fortes et vulnérables.
Nous parlions de Corsage qui est en salle. Allez, c'est la partie jeu maintenant de cette émission. Nous allons jouer avec la filmographie de James Cameron pour un blind test.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il? C'est une blague.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
James Cameron, c'est un peu plus d'une dizaine de films pour le réalisateur canadien. Nous faisons ce blind test puisque sort le Avatar 2, très attendu dans les salles. Le but du blind test, ce sont 5 extraits. Il faut évidemment trouver le titre. Et bon, là, ça va être extrêmement facile parce qu'il y a peu de films et puis qu'ils sont facilement reconnaissables. Mais c'est histoire de juste faire un clin d'œil au parcours cinématographique du réalisateur.
La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer. Mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire. Parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. J'ai dû attendre qu'il attaque avant de pouvoir le repérer.
Écoute, j'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça, ça n'existe pas encore.
C'est vrai. Pas avant 40 ans.
Tu veux dire qu'ils existeront dans le futur?
dans un futur qui dépend de toi. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer.
Tu vas aussi prétendre que tu es un homme du futur.
Exact.
Elle va en comprendre des choses, hein, Sarah Connor. C'est trouvé.
Eh oui, c'est le tout premier Terminator.
Film sorti en 1984, un Terminator robot d'aspect humain est envoyé dans un futur pour trouver et éliminer Sarah Connor avant qu'elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance. Et cette dernière envoie un de ses membres aux trousses du cyborg, interprété par Arnold Schwarzenegger. 3 millions d'entrées en France.
Un film qui a été en partie tourné en pirate par Cameron dans les rues de Los Angeles, suivant les méthodes de Roger Corman, parce qu'il n'avait, à l'époque, il avait un tout petit budget, il n'avait absolument pas les moyens qu'il a eu pour la suite démentielle, et du coup, regarde attentivement, souvent les images sont volées quand tout est tourné en extérieur. Il y a encore un côté un peu punk, c'est 84.
Il faut le regarder une nouvelle fois. Deuxième extrait.
Tout ce que je veux dire, c'est que quand on est pendu par les ongles, on ne se met pas à gesticuler.
Écoute, j'ai vu quelque chose, je ne vais pas revenir.
Chut, je n'ai rien vu pour te faire plaisir, désolé, je t'en prie.
T'es vraiment la plus grande tête de mule que j'ai jamais connue.
Oui, je suis une tête de mule. Il faut absolument que tu me croies pour l'instant. Alors maintenant, regarde-moi, s'il te plaît. Je te parais stressée? Est-ce que j'ai des symptômes d'une maladie nerveuse, des difficultés à m'exprimer, la tremblote?
Non.
Non. Bud, c'est moi, Lindsay, ok? Tu me connais mieux que n'importe qui au monde. Alors, regarde mes lèvres. J'ai vu ces choses. J'en ai touché une de la main et ce n'était pas un truc en acier comme on construirait.
Alors, c'est trouvé, forcément.
C'est Abyss, le seul, entre guillemets, bide de la carrière de James Cameron.
C'est vrai. Sorti en 1989 avec Ed Harris, un commando de la marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine Deep Core afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. Alors que les travaux de récupération commencent, l'équipage de Deep Core doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Alors presque 2 millions d'entrées en France, un Oscar des meilleurs effets visuels, bon oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas le film qui a fait le plus d'entrées. En tout cas, au niveau international. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de James Cameron.
Bon, vous avez qu'à vous demander qu'est-ce que ces femmes veulent vraiment. Vous prenez ces pauvres ménagères qui sont mariées au même type depuis des années, elles s'ennuient à mourir, elles ont besoin de se détendre. La promesse d'une aventure à soupçon de danger. Et j'invente tout ça pour elles.
Vous passez votre temps à mentir, si je comprends bien. Moi, je pourrais pas faire ça.
Pourquoi, vous êtes un boy scout? Non. Dites que vous jouez un rôle, c'est l'imaginaire. Il faut savoir réaliser leurs fantasmes, il faut savoir les sortir de leur petit train-train quotidien pendant quelques heures.
Qu'est-ce que vous faites de leur mari?
Des couilles molles. Je veux dire, il faut l'avouer, s'ils faisaient leur boulot, on ne ferait pas appel à moi, vous me comprenez?
Ils sont idiots.
Alors, Schwarzenegger qui garde son calme, c'est...
Oui, c'est True Lies.
Oui, film de 1994. C'est un remake du film français La Totale de Claude Zidi. On y voit comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son époux et le trouve bien fade en Monsieur Tout-le-Monde, presque 2 millions d'entrées en France.
Alors, ce qui est marrant, c'est que le personnage qu'on a entendu, il est joué par Bill Paxton, le regretté Bill Paxton, qui est mort depuis. C'est quand même grâce à la filmographie de Cameron et de ses copains, c'est le seul acteur au monde à avoir été tué par un Terminator, par un Alien et par un Predator.
Bien joué, la trilogie.
Vous m'avez envoyé au massacre et maintenant vous voulez me réexpédier là-bas? Pas question, c'est plus mon problème.
Je peux finir?
Non, laissez tomber.
Ripley, vous ne serez pas mêlé au combat, je garantis votre sécurité.
Vous savez, ces Marines coloniaux sont tout sauf des amateurs. Ils ont les armes les plus sophistiquées du marché. Avec eux, on peut être tranquille. Lieutenant, c'est pas vrai?
Mais oui, mes hommes sont entraînés à ce genre de situation.
Alors allez-y sans moi, j'aime pas jouer aux soldats.
C'est trouvé, d'autant qu'on entend le prénom du personnage.
C'est Aliens le retour.
Oui, film sorti en 86. C'est le deuxième opus de la saga Alien. Ripley accompagne un détachement de Marines coloniaux qui se rendent sur la planète LV-426A. Une colonie spatiale humaine terraformée qui ne donne plus de nouvelles et où la présence de la créature du premier film, donc l'Alien, évidemment, est suspectée. C'est très, très martial comme version. 7 millions d'entrées en France. Un beau carton pour cet Alien.
Il faut dire quand même que c'est un opus qui a révolutionné ce genre de film d'action. C'est un modèle qui a été copié pendant quasiment 2 décennies à Hollywood. Si vous êtes un petit peu mélomane, écoutez les bandes annonces des années 90, vous remarquerez que le thème d'Alien de James Horner, il est réutilisé en boucle. Ça s'est retrouvé dans les jeux vidéo. Enfin, Alien, ça a vraiment été une pierre assez incroyable.
Dernier extrait de ce blind test consacré à la filmographie de James Cameron.
Leur saleté de village est plantée, comme par hasard, sur le plus gros gisement d'inoptanium qu'on ait trouvé à des kilomètres à la ronde. Non, mais regardez ce tas d'oseilles.
Et qui va les convaincre?
Devinez.
Et s'ils veulent pas bouger?
Oh, ça m'étonnerait qu'ils refusent.
Ok. Écoutez. Le fait de tuer des indigènes est mal vu. Mais il y a une chose que les actionnaires craignent plus qu'une mauvaise campagne de presse. C'est un bilan financier en déficit. C'est pas moi qui fixe les règles. Alors trouvez-moi une carotte qui les incite à bouger. Sinon, ce sera un grand coup de trique. Ok?
Vous avez 3 mois, Sally. Après, ce sera les bulldozers.
Bah, c'est dit, hein.
C'est Avatar.
Et voilà, comme ça on fait la jonction avec l'actu de James Cameron, Avatar sorti en 2009. Des colons humains dont le but est d'exploiter les ressources de la planète Pandora sont en guerre contre le peuple des Na'vi. Et un ancien Marine handicapé est recruté pour incarner un avatar sur cette planète. Et un avatar permet à des pilotes humains de lier leur esprit à un corps biologique commandé à distance. Si on multiplie par 2 les entrées d'aliens, ça nous donne 14 millions. Et c'est les entrées qu'on fait Avatar en France. C'est sans doute, ça fait partie sans doute du top 10 des films en France.
Mais le détail amusant, c'est que quand c'est ressorti là en septembre, qu'on a d'ailleurs rechroniqué dans Cinérama, c'est ressorti 2 semaines. Dans le monde entier, c'était numéro 1 partout dans le monde.
Ainsi s'achève ce blind test, donc consacré à la filmographie de James Cameron. L'arrivée d'un voisin pourrait donner l'occasion de faire bouger la vie d'un habitant d'Haïfa. C'est la fièvre méditerranéenne de Maharaj.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Nous sommes à Haïfa avec Walid, un arabe israélien marié avec 2 enfants qui est au chômage. Alors il aimerait bien écrire son roman, mais on sent bien que ça pourrait prendre du temps. La dépression n'arrange rien. Mais quand arrive un nouveau voisin, Jalal, son quotidien est bouleversé. Plutôt extraverti, sans gêne et vite désagréable, celui-ci est bien différent de Walid. Alors si au début, le courant ne passe pas, au bout d'un moment, Walid est de plus en plus fasciné par le nouveau venu qui pourrait lui permettre de nourrir son activité littéraire. Ce voisin de palier traîne dans des combines et doit de l'argent à des malfrats. Quand les contraires s'attirent, ce Walid pourrait être son salut pour sortir de sa vie morne. Mais la comédie douce devient plus noire quand le scénario se déplace vers une intrigue surprenante dont on ne peut rien dévoiler. Et c'est peut-être à ce revirement que le film doit son prix du scénario à un certain regard lors du dernier festival de Cannes.
Mais Jabal, Jabal bekhaf min mout.
Jabal wali bekhaf min haya.
Dans une nouvelle mécanique, le film devient attachant, faisant le tour de questions existentielles et morales sur la vie ou la mort. L'un dit qu'un lâche a peur de la mort, quand l'autre dit qu'un lâche a peur de la vie. À vous ensuite de réfléchir à ça. La réalisation est discrète, mais le film ne souffre d'aucun défaut visible. Le duo prend forme et on ne peut que finalement y croire. Comédie noire avec des saillies absurdes. Pour un film palestinien, la fièvre méditerranéenne fait l'économie du traitement frontal du conflit israélo-palestinien qui n'est là qu'en toile de fond, le propos est ailleurs, tourné vers ces personnages dissemblables qui forment un duo. Alors, d'où vient ce titre, fièvre méditerranéenne? Eh bien, cette pathologie, il faut savoir qu'elle existe bel et bien. Il s'agit d'une maladie héréditaire qui se manifeste par des poussées ou crises de fièvre avec des douleurs abdominales. Alors ici, elle est suspectée chez le fiston de Walid qui, tous les mardis, tombe malade de manière inexpliqué. Mais on apprendra que ces malaises soudains de l'enfant sont liés au cours de géographie ce jour-là, ce mardi. Et c'est là qu'intervient la référence quasi inévitable au conflit israélo-palestinien dans un film palestinien. Voilà. Fièvre méditerranéenne va d'ailleurs représenter la Palestine pour les prochains Oscars dans la catégorie meilleur film international. Et ce film est en salle depuis le 14 décembre. Faisons un détour en Charabie, c'est le pays d'Ernest. Nous allons parler de Ernest et Célestine puisque nous approchons de Noël, et donc nous allons parler d'un film d'animation.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore, vous êtes la joie de mon cœur.
Ernest, allez, en route pour la Charabie.
Ah, Célestine,
On le voit, hein, les programmations de fin d'année, bah, c'est l'occasion de voir ou de revoir s'afficher hein, des poids lourds de l'industrie, comme James Cameron hein, avec le prochain Avatar, ou les valeurs sûres, hein, bah, affirmer un peu plus leur maîtrise en ces temps de diffusion familiale, hein, et donc adapter au plus grand public. Bah, c'est le cas de l'animation française, véritable poids lourd mondial, et je tiens à le rappeler, bardé d'artistes aussi différents que doués, et qui vient ici présenter bah, le nouveau volet hein, des aventures d'Ernest et Célestine. Alors pour rappel, hein, si vous cherchez de quoi occuper vos enfants, ou juste vous et votre saine curiosité, bah, avec l'arrivée des vacances et sans passer par l'animation américaine de Disney et Pixar, bah désormais beaucoup plus symbole de pachyderme lénifiant hein, que d'éveil et de merveille, nous avons eu droit récemment à une flopée de petits bijoux, bah, tous issus de nos studios nationaux. Il y a eu entre autres Calamity, Petit Vampire, Avril et le Monde Truqué et Les Deux Minuscules. Hein. Il est donc bien triste de voir que nos productions nationales bah, se débrouillent beaucoup moins bien au box-office local bah, que ces pachydermes précités. Mais en ce qui concerne Ernest et Célestine, ben, il est encore temps d'inverser la vapeur. Car le premier volet, ben, datant déjà d'il y a 10 ans, hein, fait bien évidemment partie de cette sélection. Il faut toutefois préciser que ce dernier, ainsi que la suite dont il est question ben, ici, s'adresse principalement aux petits, plus que les autres hein, cités. Mais que cela ne dissuade pas hein, les amateurs d'animation, décidément gâtés avec la sortie bah, du Pinocchio de Guillermo del Toro, bah, d'y aller faire un tour. Hein. Sur le simple plan esthétique, Ernest et Célestine réalisent le désormais bah, exploit de tout faire à l'ancienne, à la main, et se positionnent donc logiquement, j'ai envie de dire, bah, comme l'une des réussites picturales de l'année, tant le soin apporté à l'ensemble bah, est un régal de tous les instants pour les yeux.
Oh, utilisation de notes interdites, vous êtes bon pour la prison, mon vieux.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Vous faites encore la chasse aux notes?
Mi-fa-sol, ceci, c'est...
Panique dans la vie désormais bien rangée, mais peut-être un peu trop, hein, d'Ernest et Célestine. Alors à la suite d'une mauvaise manipulation, le Stradivarius d'Ernest se casse contre le sol. Malgré la mauvaise humeur et les réticences d'Ernest, Célestine, mortifiée, se décide à le réparer. Mais comment faire lorsqu'un tel instrument a été conçu par un véritable artiste? Eh bien, tout simplement le retrouver. Donc Célestine part en Charabie, terre d'origine d'Ernest, et entraîne l'ours mal léché, mais si attachant, dans une aventure rocambolesque. Après un périple que n'auraient pas renié Michael Caine et Sean Connery dans L'Homme qui voulut être roi, ils arrivent donc en Charabie, terre d'harmonie et de musique. Sauf que la musique n'est plus autorisée et donc l'harmonie se voit évidemment bousculée par un ordre interdisant ben, les manifestations sonores. C'est un peu comme Mozart hein, dans Amadeus de Miloš Forman, hein. On reproche aux musiciens de faire trop de notes et il est désormais interdit de faire plus que la seule note lénifiante autorisée. Mais ce n'est pas tout, hein. Ce nouvel ordre répressif se voit contrebalancé par une figure de la résistance musicale en la personne de Mi-Fa-Sol, un petit ours masqué qui défie les autorités avec son saxophone. Ernest et Célestine hein, de s'y retrouver et de comprendre comment renverser le pouvoir en place, surtout quand celui-ci est tributaire du père même d'Ernest et que la raison de ce totalitarisme a à voir avec le départ en son temps d'Ernest de la Charabie. Alors en Charabie, hein, c'est un peu comme dans l'Amérique de Fievel, il n'y a pas de chat, hein, contrairement à ce que laisse sous-entendre son titre. Mais il y a plein d'ours et ils n'attendent que de retrouver le goût de la liberté. C'est bien sûr paradoxal hein, car derrière cette injustice, il est question de devenir juge comme tous les ours de la famille d'Ernest. Ernest, ou plutôt Ernestov de son vrai prénom.
Mi-Fa-Sol, recherché pour résistance musicale.
Mot de passe-off.
Eh ben j'en sais rien moi.
C'est pas le mot.
On peut pas partir. La résistance musicale a besoin de nous, Ernest.
Je décide.
Qui cherche les notes trouvera la mélodie.
Aux manettes du film, Julie Cheng et Jean-Christophe Roger prennent la succession de Benjamin Renner, Vincent Patard et Stéphane Aubier, assurant une continuité au travers des années qui fait plaisir à voir. Par exemple, on note et on se délecte des multiples gags avec les hordes de policiers maladroits qui rappellent bien évidemment le comique burlesque des films des Keystone Cops, mais aussi les policiers de la splendide série Sherlock Holmes d'Hayao Miyazaki. Ce n'est pas étonnant hein, quand on sait que l'une des grosses influences de l'un des réalisateurs du premier opus, hein, Benjamin Renner, était justement le cinéma d'Hayao Miyazaki. Ce détail mis de côté, hein, ainsi qu'une musique qui sent bon l'Est et le cinéma Kusturica, Ernest et Célestine affirment à 100% ses origines et ses talents français. Du casting de doublage mené à nouveau par Lambert Wilson qui se fait plaisir hein, en grognon au grand cœur à la chanson du générique de fin signée Pomme. Vous l'aurez donc compris, hein, que vous ayez des enfants ou que vous soyez amateur de cinéma d'animation, ne laissez pas le chapeauté 2 prendre le monopole de toutes les salles jeunesse de cette fin d'année. Ernest et Célestine, donc une réussite bien de chez nous, méritent franchement mieux que d'être relégués en deuxième division et une visibilité aussi étendue que les blockbusters venus d'ailleurs.
Ernest et Célestine est en salle depuis le 14 décembre.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, tu auras deux films, Guillaume.
Oui, je vais avoir Tempête de Christian Duguay et Avatar, forcément, le deuxième du nom, que j'aurai vu deux fois d'ici la prochaine séance.
Et moi, j'aurai vu Les 8 montagnes récompensées au dernier festival de Cannes par le prix du jury. À la semaine prochaine.